Voilà, 2017 se termine, l'occasion de s'interroger sur les événements marquants de cette année, notamment à l'étranger. Que nous disent ces événements sur l'évolution de notre planète? Alors nous avons invité Daniel Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Ce monde qui nous entoure, vous l'avez raconté dans un roman paru en août, Mécanique du chaos, mécanique au pluriel, c'est paru chez Grasset, un roman qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française. Alors, avant de revenir sur cet ouvrage, un véritable thriller diplomatique, quels sont, Daniel Rondeau, les deux ou trois événements étrangers qui vous ont marqué cette année et qui, à votre avis, auront encore des conséquences en 2018?
J'en vois trois. Le premier, c'est peut-être la façon dont la France est rentrée dans le jeu, revenue sur la scène diplomatique avec beaucoup de force au moment de l'invitation de Vladimir Poutine à Versailles et de Trump sur les Champs-Élysées. En deux coups de cuillère à peau, si j'ose dire, la France revenait sur le devant de la scène. Le deuxième, c'est l'invitation, la première invitation du président Macron pour un chef d'État à l'étranger, c'était le président Michel Aoun, président du Liban. Et c'est quelque chose de très important. Vous savez peut-être, je me suis battu pour l'indépendance du Liban depuis très, très longtemps. Le Liban est plus qu'un pays, c'est une idée, c'est un pays arabe où vit toujours une forme de démocratie. Certes, cette démocratie, elle est imparfaite, mais nos propres démocraties aussi sont imparfaites. Et nous voyons bien que tout le Moyen-Orient et le monde entier a besoin de ce petit Liban. Ce petit Liban qui, en même temps, accueille sur son sol 1 750 000 réfugiés aujourd'hui. Et ce petit pays tient le coup. Et je trouve que l'invitation, faire honneur au Liban et au président Michel Aoun, c'était quelque chose d'important. La troisième chose, naturellement, c'est la fin de la guerre en Syrie et en Irak, qui va changer les choses. Et le fait que, bon, bien évidemment, notre politique, la politique française, a changé. On s'était un peu focalisé sur Bachar el-Assad. Pas uniquement, ça ne date pas du président Hollande, ça a commencé avec Alain Juppé, puis Fabius a continué cette politique. Et cette politique a été un échec et bon, on a tourné la page.
On a tourné la page et Assad est toujours au pouvoir et a, semble-t-il, de bonnes chances de rester au pouvoir en 2018 alors qu'il a du sang sur les mains des dizaines de milliers de personnes de son peuple tuées par lui-même, par ses troupes.
Bien évidemment, le régime de Bachar el-Assad est un régime cruel. C'est pas moi qui vais défendre ce régime. J'ai été interdit de séjour au Liban pendant 10 ans après avoir publié un livre sur le Liban qui s'appelait Chronique du Liban rebelle. Et les services syriens sont venus visiter mon appartement à Paris du temps du père. Bon, Bachar est toujours là. On a cru qu'il allait tomber. L'opposition nous avions espérée n'était pas celle exactement qui correspondait à nos voeux. On voyait bien qu'il y avait l'opposition à Bachar était soutenu par l'Arabie Saoudite et par le Qatar. Il y a une opposition islamiste qui s'est développée. Bon, il est là, il va falloir faire avec, et puis on verra comment s'organiser pour ramener la paix, la stabilité et de la démocratie. C'est une chose très compliquée d'amener la paix et la démocratie, surtout après 5 ans de faillite.
Mais vous imaginez qu'un jour, Assad soit jugé par la justice internationale? Est-ce que ça peut se réaliser? Alors,
vous savez que l'histoire, c'est une boîte à surprises. Donc on peut toujours, tous les scénarios sont possibles. Pour l'instant, on n'en est pas là.
Alors, on va revenir sur ce livre « Mécanique du chaos » chez Grasset. C'est un livre inspiré de l'actualité, ce que nous racontons chaque jour. Vous racontez le monde, mais aussi, dans ce livre, la France d'aujourd'hui, avec notamment ces fameux territoires perdus de la République, comme on dit très souvent, c'est une expression courante.
C'est une assez belle expression, je trouve, territoire perdu de la République. Oui, bien sûr, je me suis focalisé sur un certain nombre de lieux. J'ai regroupé plusieurs lieux réels en un lieu imaginaire. D'où la République s'est retirée. Elle s'est retirée dans ces territoires-là, elle a oublié ou abandonné son œuvre sublime d'éducation qui est fondamentale. Et d'autre part, l'autorité aussi s'est montrée défaillante. Donc la nature a horreur du vide. Et dans ces territoires perdus, ce sont les petits caïds qui ont pris le pouvoir et qui ont fait la jonction avec des petits islamistes. Donc, ils font des petits caïds ou des gros caïds. Bon, y a les deux, naturellement. Et ce sont eux qui ont mis en coupe réglée ces zones de non-droit. Et naturellement, les populations qui vivent là vivent avec cette loi de la jungle. Donc, ce sont les premières victimes de cette situation.
Dans ce livre, il y a la présence du terrorisme, du fanatisme. Et il y a de nombreux personnages qui vont se croiser, qui ont des liens. Ils sont tous en train de jouer un double jeu. Ils sont pas très très nets. Agents secrets, djihadistes, diplomates, journalistes, trafiquants d'armes, réfugiés. Vous avez voulu présenter la complexité du monde à travers tous ces personnages ?
Oui, je crois que les personnes font la vie et font l'histoire. Et en littérature, ce sont les personnages qui font le roman. Or, le roman, il permet d'interroger la complexité de notre société. Umberto Eco parle de nos sociétés liquides. Et dans ces sociétés liquides, beaucoup de gens flottent, des gens très ordinaires. Il y a par exemple, il y a un policier. Les gens flottent non pas uniquement sur le plan politique, mais ils flottent dans leur propre vie privée. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. C'est arrivé à travers la complexité de mes personnages. Tous mes personnages, même par exemple l'archéologue, qui est une sorte de narrateur et qui amène un peu de profondeur à mon livre, qui est écrit sur une actualité très chaude, même lui, on voit bien que la définition du bien et du mal, parfois, elle est très floue. Bon. Et c'est ça que je veux raconter, parce que la complexité de la situation dans ces zones de non-droit, elle est réelle, et on ne peut pas simplifier. Donc j'ai essayé de faire en sorte que dans mon roman, chaque mot soit pesé dans une petite coupelle d'or et pour montrer la complexité de cette situation.
Je rappelle, Daniel Rondeau, que vous avez été ambassadeur de France à Malte de 2008 à 2011. Et donc là, à Malte, vous avez découvert la particularité de cet archipel. Hein. Ce tout petit pays, c'est idéal. C'est un point de rencontre idéal pour des gens venus d'un peu partout, de Sicile, de Tunis, de Tripoli, d'Istanbul, de Paris. Ça vous a inspiré pour ce livre ?
Bien sûr, ça m'a inspiré. Mais vous savez, j'ai écrit sur beaucoup de villes méditerranéennes. J'ai passé ma vie à pèleriner autour de la Méditerranée. Et brusquement, je me suis retrouvé sur le point central de la Méditerranée, qui est à égale distance de Barcelone et de Beyrouth, de Tunis et de Rome. Donc,
c'est un lieu idéal pour tous ces gens qui pratiquent le double jeu.
Oui, bien sûr. Mais c'est aussi là que j'ai vu arriver, que j'ai pris conscience de la tragédie des migrants, dont j'avais d'ailleurs parlé à France Inter en son temps.
Avec le personnage d'une Somalienne.
Oui, une Somalienne, Abiba. Ouais, c'est-à-dire que de tous ces migrants qui ont traversé, qui ont fui soit le djihadisme, soit la faim, soit la guerre, ont traversé le Sahara dans des conditions apocalyptiques. Ensuite, sont arrivés en Libye, où ils sont restés longtemps. On a parlé au début du mois de décembre de l'importance de l'esclavagisme en Libye. Ce n'est pas une nouveauté. Il est là depuis longtemps. Et ensuite, après avoir travaillé en Libye gratuitement, comme esclave, ils ont essayé de franchir la Méditerranée. Et j'ai vu arriver une de ces jeunes Somaliennes qui s'appelle Abiba, dont j'ai transformé sa vie, naturellement. J'en ai fait un personnage.
Très présent dans ce roman, la façon dont vous décrivez de la dissimulation des organisations terroristes.
Oui, bien sûr, mais je pense que c'est le béaba du terrorisme. Je suis toujours surpris quand j'entends un commentaire, soit d'un policier, soit de quelqu'un qui est impliqué dans une enquête, en disant « Nous n'avions aucun élément qui nous permettait de penser que cette personne serait terroriste. » Naturellement, il va pas annoncer, ils annoncent pas tous la couleur. Donc, ils attendent leur heure pour frapper.
Les mécaniques du chaos, donc « Mécaniques du chaos », c'est le titre de ce roman. Est-ce qu'on a une part de responsabilité, nous, dans le fonctionnement de ces mécaniques du chaos ?
Je pense que notre responsabilité, bien sûr, on a une part de responsabilité. Nos responsabilités, elles sont multiples. Je dirais peut-être que la première, c'est de ne pas avoir voulu regarder la réalité. La situation de ces territoires perdus, elle existe depuis longtemps, plusieurs décennies. Et naturellement, il y a toujours eu des instituteurs, des assistantes sociales, des fonctionnaires, des policiers, des préfets, des journalistes, qui ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur ces territoires. Mais en fait, nous avons refusé, il y a un véritable déni de réalité. Et c'est dans le déni dans ce déni que les djihadistes et les caïds ont fait leur nid. Je pense que c'est la première responsabilité.
Donc dans ce livre, vous avez voulu nous montrer, peut-être nous rappeler des réalités qu'on ne veut pas voir.
Oui, je pense que la littérature, elle doit aussi interroger nos sociétés qui sont parfois aujourd'hui très déstabilisées. Je pense que c'est la fonction ancienne de la littérature.
Daniel Rondeau, qui a publié chez Grasset « Mécanique du chaos », est notre invité ce matin. Vous pourrez l'interroger dans Interactive, 01 45 24 7000. Après, la revue de presse, ce sera dans 30 secondes.